Ça jazz à Lyon avec Alexis André.
Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Ça jazz à Lyon. Je reçois ce matin François-Xavier Pénicaud, le président du Modem du Rhône. François-Xavier Pénicaud, bonjour.
Bonjour Alexis André.
Après des mois de tergiversation, le Modem a enfin officialisé l'alliance avec les Républicains et l'UDI pour les régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça vous a pesé ce suspense ?
Pesé, non. Vous savez, quand on s'appelle le mouvement démocrate, qui est de la démocratie au sens du débat et de l'approfondissement de vos positions, c'est plutôt une chose qui est saine. Après, bien entendu, tout débat se fait parfois dans la passion. Il peut y avoir quelques petites tensions quand vous vous êtes investi dans les positions que vous défendez. Donc, c'est toujours un petit peu délicat de trouver l'équilibre entre la démocratie et une démocratie qui se fasse bien dans le respect des uns et des autres et de façon sereine et apaisée.
Alors aujourd'hui, vous pouvez librement dévoiler votre rapport à la campagne de Laurent Wauquiez. Quels sont vos plans pour favoriser le développement de la future région ? Sur quel thème vous avez insisté ?
La première priorité de cette liste d'union et sur laquelle on prendra parole de façon ferme, c'est la question, bien entendu, de l'emploi. Mmh. L'emploi, le développement économique et donc au travers en particulier de l'accompagnement et la facilitation du travail des TPE-PME au travers que ce soit de la simplification administrative. On avait pu échanger sur la chute des rails. Il faudra réinventer une plateforme d'aide à l'exportation qui soit sur des bases saines financièrement, contrairement budgétairement par rapport aux dérives qu'avait pu avoir la structure précédente. Et puis on va pouvoir aborder aussi dans chacune des compétences et chacun des secteurs la façon dont on pourra participer à ce développement l'emploi. Je pense par exemple cet été sur la crise agricole, eh bien, la plateforme d'exportation, ce sera une nouveauté d'ailleurs par rapport à l'ancienne, aura une dimension de service aux agriculteurs pour qu'ils puissent intégrer des marchés extérieurs intéressants. Il y a aussi la question de l'apprentissage et du statut de l'alternant, que l'on souhaite être un statut équivalent à celui du statut de l'étudiant. C'est une des manières par lesquelles on pourra revaloriser le statut de l'alternant et les métiers qui y conduisent. Il y a la question de la culture que l'on veut aborder. Soyons clairs, il y aura une sanctuarisation de la part du budget dédié à la culture, et je crois que c'est une attente importante et une crainte parfois qu'ont les acteurs de la culture. Oui. Donc ce sera un engagement ferme, mais on va vouloir que ce budget constant soit réorienté aussi vers un peu plus d'efficience, un peu plus d'efficacité. C'est-à-dire qu'il faut penser que les producteurs du monde culturel sont aussi des acteurs de l'économie. Quand vous prenez un événement comme le jazz à Vienne, où pour 1 euro dépensé, vous avez 15 euros de recettes par tout ce qui est induit dans l'environnement, l'écosystème de cette activité culturelle, eh bien vous êtes là aussi sur une reconnaissance de ce que le monde culturel apporte à la société. Et bien entendu, il faut aussi savoir dire, et ce sera ce que les démocrates aussi peuvent porter dans cette campagne, que la culture n'est pas une marchandise comme les autres. Deux autres thèmes que l'on va creuser, il y aura la question environnementale, sur lequel le seul discours qu'il y a aujourd'hui est un discours punitif pour nous. L'environnement, l'écologie, la transition énergétique doit se penser de façon extrêmement positive. Lutter contre la précarité énergétique, c'est par exemple dans la première région productrice d'énergie en France, qu'est Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, il faut qu'on puisse avoir une vision volontariste.
D'accord. Et alors, vous souhaitez également aussi favoriser la proximité entre la population et les conseillers régionaux. Le constat est là, hein, les Rhône-Alpins ont beaucoup de mal à connaître le travail de la région. Est-ce qu'il y a de l'autre côté un vrai intérêt ?
L'une des compétences premières de la région, c'est le développement économique. Le développement économique, c'est l'emploi. Oser me dire que les Rhône-Alpins et les Auvergnats ne s'intéressent pas à la question de l'emploi, je ne vous croirais pas. Et bien entendu que oui, ils s'y intéressent. Mais encore faut-il qu'on leur explique. C'est pour ça que j'avais dit sur votre antenne il y a quelques mois que je souhaitais faire de la région le fer de lance de la reconstruction de notre tissu économique, tissu industriel, et la fer de lance de la reconquête de dynamique de l'emploi de notre pays et même de notre continent. Et nous avons ce potentiel-là, encore faut-il que l'on s'en saisisse, et il faut simplement expliquer à nos concitoyens les enjeux qu'il y a derrière cette échéance, les enjeux donc en matière de développement économique, les enjeux en matière de politique de formation, d'insertion, en matière de développement de l'enseignement supérieur, en matière de développement, encore une fois, des réponses aux questions de précarité énergétique et de problématiques environnementales. Mmh. On a des Rhône-Alpins et des Auvergnats qui sont très fiers de leur territoire. Ils ont raison d'être fiers. Une région qui est magnifique, fabuleuse, avec des territoires qui méritent qu'on s'y attache. Et c'est pas pour rien que d'ailleurs, on a toute une partie de notre tissu économique qui vit du tourisme. Eh bien, ils ont ce souci que l'on puisse avoir une politique à la fois de développement de l'emploi, mais qui ne se fasse pas au détriment de l'écosystème dans lequel on évolue. Eh bien ça, ils ont raison de s'en soucier. Et il faut simplement leur expliquer que c'est aussi et principalement même au niveau régional, que des décisions comme ça pourront se prendre. Vous pouvez aussi aller sur le terrain quand vous parlez des problématiques de TER, de transport. Allez leur dire que la question des transports régionaux n'est pas une problématique qu'ils vivent au quotidien. Ils le vivent le matin pour aller au travail, le soir pour en rentrer, et je ne vous parle pas de l'impact que ça a, y compris sur la question des transports scolaires qui vont devenir aussi un élément de compétence régionale.
Ça, ce sont les thèmes, les propositions qui vont intégrer les promesses de campagne de Laurent Wauquiez. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez eu l'assurance d'obtenir les places éligibles nécessaires pour surveiller de près leur application si jamais la liste était victorieuse en décembre?
Bien sûr, mais d'ailleurs, Laurent Wauquiez l'a affirmé, il y aura une majorité qui est une majorité de coalition, une majorité d'équilibre, où chacun, les Républicains de leur part, l'UDI d'autre part, nous d'autre part, toute la société civile d'autre part, aucune de ces quatre sensibilités ne pourra avoir de majorité régionale seule dans le projet de majorité que nous proposons. Donc effectivement, nous démocrates serons en position d'être des garants des engagements collectifs qui sont pris, des engagements que nous prenons, nous à titre personnel, devant les concitoyens, et il en est de même pour les Républicains, l'UDI, et les acteurs de la société civile qui intègrent nos listes.
Quitte à reproduire ce qui peut se passer avec Jean-Jacques Erran et les écologistes, parfois un enlisement de certains dossiers, et on l'a vu, la mort des rails.
Le comparatif est tout à fait intéressant. C'est pour ça que Laurent Wauquiez a souhaité, avec Patrick Mignola, construire et qu'on prenne le temps de construire cette convergence. Et c'est vrai qu'on a passé un mois à se voir, toutes les semaines, pendant un mois, pour aborder les sujets de fond sur lesquels nous pouvions avoir des approches différentes, voire divergentes, et pour les faire converger. J'aime souvent à dire qu'il y en a qui décrètent les rassemblements. Ça ne marche jamais, les rassemblements que vous décrétez. Il faut construire les rassemblements. Un rassemblement ne se décrète pas, il se construit. Nous avons construit le rassemblement autour d'un projet commun. Les coalitions qui se créent de façon un peu précipitée dans l'entre-deux-tours ont toujours ce caractère un petit peu friable. Et je vais vous dire d'ailleurs très franchement, moi j'ai eu des échanges tout à fait cordiaux avec des gens des équipes de Kéran. J'ai été particulièrement déçu d'une approche qui visait à faire construire une majorité sur la base de débauchage individuel sans que vous ayez la possibilité de discuter des projets. Cette façon de faire, bien entendu, mène à des majorités qui sont fragiles parce qu'elles ne sont pas sur des bases saines.
Donc quand vous voyez ce sondage BVA, ce récent sondage BVA qui créditait une liste MoDem indépendante de 7% au premier tour, vous n'avez donc aucun regret. Pourtant, 7%, ça vous aurait permis d'avoir un poids certain pour des négociations.
Encore une fois, la question de pouvoir se présenter devant les électeurs sur vos idées telles qu'elles sont de façon pure est toujours plaisant. Et bien entendu que le travail de rassemblement est un travail qui est dur, qui est exigeant, et que bien entendu, vous faites aussi une part de compromis. Mais c'était aussi la manière de prendre nos responsabilités. Ce que montre ce sondage, et moi que je suis très content de voir ce sondage, c'est qu'il réaffirme encore une fois qu'une majorité régionale d'intérêt régional ne peut se construire sans la plus-value du mouvement démocrate dans son approche. Son approche qui, effectivement, n'est pas une approche d'idéologue, qui n'est pas une approche dogmatique et qui est une approche extrêmement pragmatique avec une méthode d'écoute, de concertation, et que tout ça, eh bien, effectivement, cette capacité à dépasser les dogmes pour défendre l'intérêt régional, aujourd'hui, est quelque chose qui est attendu par les concitoyens et ça fera partie de notre plus-value et de ce à quoi nous veillerons pendant toute la durée du mandat.
En tout cas, ce sondage, les frondeurs, ceux qui voulaient une liste MoDem indépendante s'en sont nourris. Eux, ils disent que la majorité des militants en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Rhône, soutenaient leur démarche. Aujourd'hui, on va essayer de démêler le vrai du faux. Est-ce que vous avez une vague d'annulation d'adhésion dans le Rhône, par exemple?
Une vague, non, non, non.
Une vaguelette?
Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas des personnes qui ont pris leur
congé,
distance et qui ont été déçues par ce choix. Je l'entends, je les comprends, mais c'est relativement à la marge. Et par ailleurs, nous avons aussi d'autres personnes qui nous ont rejointes en disant « On avait l'impression que le mouvement démocrate, bien qu'il soit sympathique, se refusait à prendre ses responsabilités pour changer véritablement la vie quotidienne des gens en mettant les mains dans le cambouis. » Oui, il y a quelques personnes qui sont mises en distance, mais on en a aussi, en ce moment même, qui adhèrent parce qu'ils ont l'impression qu'enfin, le mouvement démocrate qui correspond à leurs idéaux va pouvoir réellement changer les choses dans différents secteurs d'activité, qu'il prend sa part de responsabilité, et c'est important que ce ressenti-là se traduise comme tel.
Et puis cette alliance avec les Républicains et l'UDI peut aussi avoir des conséquences pour certains élus. Comment vous réagissez à l'annonce de la maire de Vaux-en-Velin qui réfléchit à destituer de sa délégation son adjointe MoDem, Christine Bertin, tout ça parce qu'elle a rejoint Laurent Wauquiez?
C'est regrettable avant tout pour Vaux-en-Velin, parce que Vous le savez, au mouvement démocrate, on a son, bah, voilà, on fait de la politique autrement, c'est bête, mais on le démontre tous les jours au quotidien. Et à Vaux-en-Velin, on s'était constitué sur un regroupement de deux second tours entre une liste citoyenne et une liste socialiste, une liste citoyenne qui a intégré notamment Christine Bertin, qui effectivement est au mouvement démocrate. Il y avait un accord programmatique, un projet pour cette ville face aux communistes avec lesquels il y avait de forts désaccords. Et les postures partisanes et politiciennes, encore, prennent le dessus sur l'intérêt des habitants d'un territoire. En l'occurrence, ceux qui perdraient à cela, qui perdraient à ce que cette majorité de projets à qui ils ont fait confiance explose, ce sont les Vaudais. J'espère que cette idée-là que porte le mouvement démocrate, que l'on peut constituer des majorités de projets, qu'on peut se retrouver avec des gens à condition qu'on soit d'accord sur ce qu'il faut faire, je pense que les citoyens ne donneront pas crédit aux socialistes de se replier encore une fois sur leur clan. Ils sont déçus au niveau national d'un François Hollande qui s'est replié sur son camp alors qu'il avait une chance historique d'être le président de tous les Français. Il a décidé d'être le président d'un clan et on voit que Jean-Jacques Hérin est encore dans cette démarche-là en mettant de telles pressions sur Hélène Geoffroy qui a assumé pourtant de construire une majorité de projets sur sa ville. Alors je serais extrêmement déçu pour les Vaudais que de telles choses se fassent, mais encore une fois, pensons à l'intérêt de nos territoires et des habitants avant de penser aux intérêts de nos chapelles.
Merci François-Xavier Pénicaud. Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmag.com.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec lyonmag.com.